Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live.
François Pinet.
Salut à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver ce soir pour une très belle soirée de foot encore une fois sur RMC. Il est 20h et 2 minutes au programme de l'After Live. Metz Lens, premier match de la 29e journée de Ligue 1 entre des Messins toujours relégables et des Lensois en difficulté depuis un mois. Pour commenter cet avant-match avec moi et commenter les compos dans un instant, Roland Courbis, salut coach.
Salut les amis et salut à tous.
Ouais, tu n'as jamais entraîné les deux équipes toi, ni Metz ni Lens.
Ben oui, Lens.
T'aurais pu peut-être. Ah bah si, Lens, bien sûr, évidemment. Qu'est-ce que je raconte? Metz, non, jamais.
Non. Non, non.
Ils sont jamais venus te chercher.
Bon, il y a eu. Dans...
Ouais, t'avais pas envie de.
Intersaison, il y a eu. Bon, mon nom qui a circulé, mais il n'y a jamais eu de truc.
D'accord, bien... c'est dommage. On aurait bien aimé, nous, avoir.
J'ai toujours ça, rien. Adoré le président de l'époque, je pense que c'était aussi.
Carlo Molinari.
Ah, Carlo Molinari qui fait partie pour moi des présidents mythiques, historiques, je ne sais pas comment on peut les appeler, mais un garçon vraiment attachant.
Dans un instant, on ira justement à Saint-Symphorien pour les compos, les dernières infos avant ce Metz-Lens, supporters lensois et messins. On vous attendait maintenant au standard RMC au 32-16 avec vos commentaires aussi sur le hashtag RMC Live sur X et puis sur l'appli RMC Direct Studio. Et puis je vous rappelle aussi qu'on est en direct sur YouTube, le YouTube de l'After, avec le chat bien sûr pour vous, pour poser vos questions, pour vos réactions également, pour nous voir en plus de nous entendre. On vous demandera aussi de vous prononcer sur ce week-end de Ligue 1 tronqué pour faire souffler les équipes européennes. Marseille, Lille, le PSG jouent leur match retour de Coupe d'Europe la semaine prochaine. Comprenez-vous qu'ils soient protégés par la Ligue? Vous verrez que ce n'est pas l'avis de tous les coachs de Ligue 1. Tous pensent qu'il ne fallait pas justement tronquer cette journée de championnat. Et puis, j'ai des infos à vous donner sur les coulisses du retour des Marseillais après la défaite face à Benfica. Supporters de l'OM, on vous attend dès maintenant également au 32-16. Est-ce que le match aller d'hier, la défaite de Buzyn, vous donne de l'espoir pour le match retour jeudi prochain? Et puis mercredi prochain, nous serons à 100 jours des Jeux Olympiques de Paris. Alors RMC vous offre 100 places pour les Jeux Olympiques dès aujourd'hui. Dans chaque émission de RMC, vous allez pouvoir remporter vos deux places pour assister aux épreuves des Jeux Olympiques. Cérémonie d'ouverture, finale du 100 mètres, judo, tennis de table, natation, 4x4 nage et bien plus encore. Énormément de places, vous l'avez compris, à gagner dans toutes les émissions d'RMC. Pour ça, il faut envoyer dès maintenant Paris 2024 au 7-32-16. Paris 2024 au 7-32-16. Bonne chance à tous. Et puis j'en profite pour vous dire aussi que la semaine prochaine sera une semaine exceptionnelle sur RMC à 100 jours des Jeux Olympiques. Et ça commencera dès lundi avec Emmanuel Macron, invité exceptionnel de RMC et de BFM Télé. De 8h20 à 9h lundi, le président qui répondra en direct aux questions d'Apolline de Malherbe, aux questions des auditeurs d'RMC et de nos consultants JO, David Douillet, Marion Bartoli, Rémi Boulet. Si vous voulez poser aussi vos questions au président sur la sécurité, sur la cérémonie d'ouverture, sur les transports, sur les ambitions pour nos athlètes, notez bien cette adresse, vos questions au pluriel, vosquestions@rmc.fr et le 32-16 bien sûr, lundi entre 8h20 et 9h.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.
Avant d'aller à Metz pour retrouver nos commentateurs de Metz-Lens, on va faire le tour de nos directs avec du tennis au programme ce soir, puisqu'il y a en ce moment la suite et la fin des quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo avec un Français engagé, c'est Hugo Humbert qui fait face à Casper Ruud sous les yeux d'Eric Salio. Salut Eric.
Salut François, salut à tous. Et il y aura peut-être une superbe sensation, surprise, comme vous voulez, dans une demi-heure, trois quarts d'heure, puisque Hugo Humbert, qui était mené 6-3, 2-0 par Casper Ruud, vient d'égaliser à une manche partout sur le central du Monte Carlo Country Club. 6 jeux à 4 pour le Messin qui a lâché quand même 16 coups gagnants. Il est en feu. Il est on fire, comme on dit depuis le début de la semaine. Et donc, il est à 1-7, pourquoi pas, d'un match de gala contre Novak Djokovic en demi-finale du Monte Carlo Masters 1000.
C'est peut-être la soirée de Metz.
Qui sait, avec un Messin effectivement qui pour l'instant se débrouille très bien sur les cours de Monte-Carlo. Hugo Humbert, on te retrouve un petit peu plus tard. Eric, on va aller également du côté de Bourg-en-Bresse pour le match 2 de la finale de l'Eurocoupe en basket entre Bourg-en-Bresse et le Paris Basketball. Ça a commencé depuis 19h30 et c'est Arnaud Valadon qui est au commentaire. Salut Arnaud.
Salut François, salut coach, salut à tous. 5 minutes 40 avant la mi-temps. 3 points d'avance pour Bourg-en-Bresse face à Paris. Les Parisiens avaient emporté le match 1 mardi. Et puisque tu parlais de l'interview d'Emmanuel Macron à suivre lundi, eh bien, il y a son prédécesseur qui est là, Equinox dans l'Ain, Bourg-en-Bresse, François Hollande, qui assiste à cette partie. D'ailleurs, quand il est arrivé, Bourg-en-Bresse n'a pas marqué pendant 5 minutes. Je ne sais pas s'il faut voir un signe. Mais ils sont quand même devant, les Bressans.
Il ambiance pas dans la chaude.
Non, il n'y a pas de fuite. Ça, c'est la bonne nouvelle. 32-29 pour Bourg, c'est un match décisif hein, puisque si Paris l'emporte, Paris remportera l'Eurocup. D'ailleurs le trophée est ici, sinon il y aura une belle à suivre lundi du côté de la capitale. 32-29 donc pour Bourg-en-Bresse, 5 minutes 40 avant la mi-temps.
Et on va suivre ça bien sûr avec toi Arnaud. D'ailleurs pour les amoureux de basket, les filles de Villeneuve-d'Ascq se sont qualifiées aujourd'hui pour la finale de l'Euroleague féminin après leur victoire face à Prague. La finale qui aura lieu dimanche à 18h à suivre évidemment sur RMC. Allez coach, on va aller du côté de Saint-Symphorien tout de suite, le stade du Football Club de Metz, pour retrouver nos commentateurs, ceux qui vont nous faire vivre sur RMC ce Metz-Lens à partir de 21h. Aurélien Tirsin, salut Aurélien.
Salut messieurs, salut à tous.
Allez, avec toi Patrick Muller, le régional de l'étape. Salut Patrick.
C'est ça, salut François, salut coach.
Est-ce que vous avez les compos messieurs de ce Metz-Lens?
Absolument, allez, honneur aux Messins qui accueillent le Racing Club de Lens ce soir.
Ah, tu me fais plaisir avec Alexandro Kidja dans les buts. Quelques petites surprises quand même de dernière minute concoctées par Laszlo Bologna, pas au niveau du système. Défense à 4 avec Colin sur la droite de cette défense et non pas Kouao. Sané et non pas Kandé dans l'axe, accompagné d'Ismaël Traoré. Udol le capitaine à gauche. Trois joueurs au milieu de terrain, Kevin Endoram, Danley Jean-Jacques, Arthur Atta en position de meneur de jeu. À droite, Vanden Kerkhoff. Et à gauche, pas de Lame Kelsey mais Papa Diallo, alors que l'inévitable Georges Mikotadze sera à la pointe de cette attaque.
Et côté Lensois, la surprise c'est Eli Wahi, le meilleur buteur du club sur le banc. Wesley Saïd, bon, c'est le deuxième meilleur buteur Lensois, donc il le remplacera en attaque avec comme d'habitude en ce moment Florian Sotoka et David Pereira da Costa en soutien. Un milieu très jeune, Neil Elanaoui, qui retrouve sa position de titulaire. Il était un petit peu malade la semaine dernière contre le Havre, il est bien là titulaire aux côtés de Andy Diouf. Et puis derrière c'est du classique, si ce n'est le retour comme titulaire de Diver Machado, le Colombien, qui va faire du bien à gauche puisque ça permet à Frankowski de commencer piston droit. L'habituel charnière Gradit, Danso, Facundo Medina dans l'axe, et puis le capitaine Brice Samba dans les cages.
Donc Wahi, on l'a bien compris, donc remplaçant, c'est ça?
Wesley Saïd à sa place en pointe.
Sera titulaire. On va parler de cette équipe lensoise, mais il y a une question, je prolonge une question que vient de me poser coach. Lamine Camara, il n'est pas sur le terrain donc.
Exactement. Patrick, non, il ne sera pas titularisé.
Ah oui, c'est un choix quand même assez fort alors.
Oui, c'est Daniel Jean-Jacques qui lui a été préféré, mais tu as raison, il était attendu dans ce 11 de départ. On peut imaginer que. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Muscler un petit peu l'entrejeu avec Endora. Et Danley Jean-Jacques, on peut se dire ça et être sur le schéma messin habituel hein, des transitions très rapides voilà. Mais c'est sûr que Lamine Camara en même temps c'est on dit souvent lui qu'il a un énorme talent
mais à la CAN on avait croisé Eladji Diouf qui nous avait comparé Lamine Camara à Franck Lampard et Steven Gerrard dans le même corps.
Mais à la CAN,
donc là c'est énorme. Un peu raté là, ça baisse un peu le pied.
C'est une saison très irrégulière de la part de cette pépite sénégalaise.
Alors on parlera du FC Metz bien évidemment, supporters messins, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous l'avez compris au 32-16. Coach, sur cette équipe lensoise, c'est vrai que c'est une équipe qui pour l'instant est sixième, donc pour l'instant ça veut dire barrage de Conférence League si ça en reste là. L'équipe de Lens a 6 points de retard sur Lille à 6 journées de la fin, donc il y a quand même urgence de faire des résultats s'ils veulent justement aller jusqu'à cette quatrième place qualificative pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Alors que c'est une équipe de Lens qui reste sur 3 matchs sans victoire.
Ben oui, c'est une équipe de Lens qui termine difficilement, même s'il y a encore la possibilité de bien se classer. Ce que je vais regarder moi ce soir, c'est disons plutôt le niveau de Metz. Est-ce qu'on va avoir le niveau de Metz dans la première partie du match contre Brest, où là c'était plus qu'inquiétant? Et là, est-ce que Metz va continuer sur sa lancée de la deuxième mi-temps et ressembler un petit peu au Metz des 30 dernières minutes contre Brest, qui n'est jamais facile à manœuvrer, et arriver à mettre 3 buts à Brest, c'est quand même pas mal. Alors donc, il n'y a pas pour moi autre chose que l'espoir de faire un ou deux exploits dans ces 6 dernières journées, parce que sinon ça sera très compliqué. Et le calendrier de Metz, il est quand même pas simple du tout. Donc chaque chose en son temps. On va voir ce soir quelle messe nous allons avoir dans la première mi-temps, par exemple, si c'est le Metz de la deuxième mi-temps contre Brest.
Alors, puisque tu parles du calendrier, Metz ira au Havre, et puis ensuite, il y aura la réception de Lille de Rennes, un déplacement à Strasbourg avant de recevoir le PSG pour la dernière journée. Sur les Lensois, Aurélien et Patrick, il y a quand même peut-être le souvenir du match aller. En tout cas, moi, je me souviens de ce match aller qui est un véritable hold-up, Messin, pour être très très clair. Et Messin s'était imposé un but à zéro à l'époque.
C'est ça, c'est plus d'une trentaine de tirs pour les Lensois, seul cadré pour les Messins et ça suffit à l'emporter 1-0. Mais voilà, c'était le début de saison des Lensois où c'était vraiment très compliqué. Ils étaient derniers après 5 journées. On a du mal à s'en souvenir parce qu'on a beaucoup parlé de l'Olympique Lyonnais qui était dans une situation encore plus désespérée. Mais les Lensois se sont bien remis à l'endroit. Mais voilà, ça faisait partie de cette période un petit peu compliquée. Ils sont 6e aujourd'hui. Coach parlait de l'opposition messine ce soir. Mais Francaise, il le disait aussi la semaine dernière après le match nul contre le Havre. Lens tout simplement à sa place en ce moment. La saison exceptionnelle, c'était la saison dernière. Il n'y a plus Fofana, il n'y a plus Openda, on le rappelle depuis le début de saison. Donc voilà, c'est une équipe qui est entre 4, 5, 6, 7. Ça va se jouer à pas grand chose. Et donc il faut surtout retrouver de l'efficacité. On n'a pas de buteur à 20 buts comme la saison dernière. Donc c'est pourquoi Saïd peut-être va mettre un coup de fouet à sa tacle en soi ce soir.
Si je puis me permettre rapidement.
Bien sûr, Patrick.
Ce soir du match aller entre Lens et Metz, effectivement, c'était un hold-up. Je crois que c'était le soir de la cinquième journée. Enfin,
oui,
c'était
en début
de saison.
Ouais.
25% de possession pour le FC Metz match-là. 31 tirs pour les Lensois. Et tu as raison, Aurélien. Un tir cadré, mais deux tirs en tout pour les Messins. C'est dire si ça avait été pauvre et si Metz avait à ce moment-là de la saison ce petit brin de réussite et cette efficacité qui faisait toute la différence, parce que voilà, il va falloir éviter effectivement ce qui s'est passé en début de match contre Brest s'agissant des Messins. Il va surtout falloir éviter la dernière réception contre Monaco, si vous vous rappelez, 3-0 après un quart d'heure, un match cataclysmique.
Effectivement, Saint-Symphorien, ça fait longtemps que les supporters messins attendent une victoire, puisque Metz est la dernière équipe à domicile et elle affronte une équipe de Lens, on l'a dit, qui reste sur une série de 3 matchs sans victoire, 2 défaites contre Nice et contre Lille et un nul, c'était la semaine dernière face au Havre. Ça promet donc un match très très intéressant pour les deux équipes, passionnant en tout cas à suivre, et on suit ça avec vous messieurs à partir de 21h. On se retrouve un petit peu avant, Aurélien et Patrick, à tout à l'heure, pour parler de cette équipe messine et justement peut-être du choix de conserver la Slo Bologna jusqu'à la fin de saison. A priori ça en prend le chemin malgré les difficultés messines actuelles. Coach, tu restes avec nous, dans un instant on revient et on va parler de cette 29e journée tronquée, puisque on veut, de côté de la Ligue, préserver nos représentants européens, le PSG, l'OM et Lille. Est-ce que vous comprenez qu'on protège ainsi nos clubs? Certains coachs ne sont pas d'accord, on va les entendre et on attend votre avis au 32-16. A tout de suite sur RMC.
RMC, l'After Live.
François Pinet.
20h18 sur RMC, de retour dans l'After Live avec Coach Courbis pour suivre à partir de 21h le match de la 29e journée de Ligue 1 entre Metz et Lens. C'est le match d'ouverture. On est en direct également sur YouTube, donc on salue le chat et ceux qui nous regardent en direct sur la chaîne YouTube de l'After. N'hésitez pas à laisser vos messages sur le chat, on les lira évidemment tout au long de cette rencontre. On a des lives également à suivre avec notamment le tennis et la belle prestation d'Hugo Humbert, le Français, qui affronte Rude sur la terre battue de Monte Carlo. Eric Salio.
Ouais, c'est le dernier quart de finale de cette journée et Hugo Humbert est en train de peut-être de créer une énorme surprise face à Casper Ruud. Je rappelle que le Norvégien a quand même atteint 2 fois la finale de Roland. Il avait démarré cette rencontre pied au plancher en menant 6-3-2-0, mais le Messin est revenu avec beaucoup de courage et avec une patte gauche absolument extraordinaire. 1-7 partout sur le central, 6-4 pour le Messin et 2 jeux à 1 rude, mais pas de break. Ça peut se jouer à peu de choses. Et on le souhaite.
Et on va rester bien sûr avec toi tout au long de cette soirée pour nous raconter ce match entre Hugo Humbert et Casper Ruud. On rappelle que le vainqueur affrontera Novak Djokovic. L'autre demi-finale opposera Tsitsipas à Sinner, l'Italien. Et puis du basket au programme avec le match 2 de l'Eurocup entre Bourg-en-Bresse et Paris Basketball. Une finale 100% française commentée par Arnaud Valadon.
avec Paris qui avait emporté le match 1. Et là, dans ce match 2 décisif, Bourg-en-Bresse fait la course en tête, mais d'une courte tête. 45-41, il reste 40 secondes à jouer dans ce deuxième quart-temps, soit juste avant la mi-temps. Peut-être un tir, tiens, en live d'Axel Julien avec Bodian Massa, qui est contré finalement. Énorme rencontre, grande intensité, on se régale. Plus 4 pour Bourg-en-Bresse à 30 secondes de la mi-temps.
Voilà, des clubs français qui brillent en Europe. On va reparler justement de clubs français européens avec le foot. On va parler de cette journée, la 29e, très particulière ce week-end, vous l'avez compris, puisqu'elle va être coupée en deux. Trois matchs n'auront lieu que le 24 avril prochain. Lorient PSG, Monaco Lille, Marseille Nice. L'objectif très clairement affiché par la Ligue, c'est de protéger les clubs français qui sont encore engagés en Europe. Le PSG, Lille et Marseille ne jouent pas ce week-end pour préparer au mieux leur quart de finale retour de Coupe d'Europe. Dans son communiqué qui annonçait le report des matchs, la Ligue avait expliqué: le parcours des clubs français en Coupe d'Europe est une priorité absolue. Tous les points marqués sont fondamentaux pour le coefficient UEFA de la France. Bon, ils n'ont pas marqué beaucoup de points cette semaine, puisque les trois clubs ont perdu, vous l'avez compris. Mais il reste encore de l'espoir pour les matchs retour. Avant de t'entendre sur ce sujet, coach, je voudrais te faire écouter Michel Derzakarian, le coach de Montpellier, qui n'est pas concerné ce week-end, puisque Montpellier joue dimanche contre Clermont. Il n'est pas vraiment emballé par cette initiative de la Ligue. Écoutez.
Ça, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les matchs ont été remis. Pour moi, c'est... En Angleterre, ils jouent, les mecs. Hein. Dans tous les autres pays, hein, ils rejouent tous les trois jours, les mecs. Je pense pas que ça fausse le championnat, parce que quoi qu'il arrive, en 15 jours, ils vont rejouer en semaine, hein.
Voilà, Michel Derzakarian, l'entraîneur de Montpellier, interrogé en conférence de presse. N'hésitez pas, 32-16 pour nous rejoindre sur ce sujet. Coach, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Est-ce que tu partages ce que dit Michel Derzakarian ou au contraire, est-ce que tu comprends que la Ligue fasse souffler les clubs européens?
Disons, par habitude, pour réfléchir et pour éviter de dire trop de conneries, donc j'essaie de me mettre un petit peu à la place de ceux qui décident, du pourquoi ils ont décidé. Et je peux pas quand même oublier, ou alors on le fait exprès, que depuis pratiquement 25 ans, j'essaie modestement de me battre dans l'intérêt du football français, justement pour qu'il n'y ait pas des clubs qui se sentent lésés, en expliquant qu'une finale de Coupe de la Ligue et une finale de Coupe de France, ça ne se fait pas à 4 ou 5 journées de la fin. Parce que les deux clubs qui auraient dû jouer contre les deux finalistes, ah oui, on va les faire jouer trois jours après la finale. Une finale, c'est quand même un match totalement différent, avec les émotions. Trois jours après une finale, qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu, ben tu n'es pas dans le même état. Finalement, 25 ans après, ben j'ai appris qu'après l'élimination de la Coupe de la Ligue, il restait plus que la finale de la Coupe de France. L'année dernière, malgré tout, ils ont quand même encore mis cette finale de Coupe de France à 4 ou 5 journées de la fin, qui pour moi fausse totalement le sprint final. Et là, cette année, youpi, ben la finale de la Coupe de France sera après le championnat. Alors maintenant, il arrive évidemment un cas de figure qui n'était pas encore arrivé, c'est la possibilité de faciliter un petit peu les choses pour les trois clubs français qui se sont qualifiés pour les quarts de finale. Et qu'il puisse y avoir 2-3 clubs concernés qui soient pas contents, c'est tout à fait normal. Qu'il puisse y avoir Le Havre, parce que le Paris Saint-Germain a mis son équipe B contre Clermont, et qu'il soit pas content. On peut se mettre aussi à la place du Havre et des responsables. Mais là, on s'est quand même un peu amélioré en ayant déjà repoussé la finale de la Coupe de France. Après, alors maintenant...
Mais tu trouves ça normal, évidemment, finalement, de protéger comme un petit peu les clubs français qui ont les matchs retour la semaine prochaine?
Mais c'est tout à fait normal aussi que les 2-3 clubs concernés par le calendrier. Pour en revenir à Montpellier. La saison de Montpellier, là, je pense qu'elle est maintenant sauvée. Elle a été angoissante. Angoissante depuis quand ? Depuis l'histoire de ce pétard, ouais, lancé alors que Montpellier était tranquillement en train de gagner contre Clermont 4-2. Il y a eu match à rejouer. Dans ce match à rejouer, il y a eu un match nul. Il y a eu un point de pénalité.
Bon, et évidemment que Michel Derzakarian regarde un petit peu s'il va pouvoir finalement terminer cette saison tranquille. Ben je me mets à sa place. Mais bon, pour faire les choses parfaites, c'est très compliqué. Pour faire des règlements où tout le monde sera content, c'est très compliqué. Mais par contre, que finalement on ait compris 25 ans après, là je me suis vraiment senti tout seul. Hein, mais c'est pas grave. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, il paraît. Donc je me rappelle. Ben que chaque fois, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes à dire ça, puisque ça sert à rien, il y a personne qui te suit. Et ben là, 25 ans après, je vais avoir le plaisir de voir une finale de Coupe de France dans mon pays qui clôture la saison.
Bon, en tout cas, pour revenir sur cette histoire de club européen.
Et ben donc, pour y revenir, excuse-moi de te couper, je trouve tout à fait normal qu'il y ait deux, trois clubs qui sont pas contents.
Alors, Gérard, qu'est-ce qu'il en pense? Il a fait le 32-16, Gérard, et il nous rejoint dans l'after live avant Metz-Lens, on le rappelle, à partir de 21h. Salut Gérard.
Oui, bonsoir. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir.
Salut Gérard.
Content de vous entendre en tête.
Merci beaucoup.
Alors,
Gérard.
Moi, je suis plutôt pour. Et par contre, le président du Havre qui se plaigne, mais alors, si jamais il rencontrait une équipe type où, dans laquelle il y avait par exemple les 5-6 joueurs majeurs blessés, est-ce qu'il dirait qu'il est désavantagé ou il dirait rien?
Non, mais donc, chacun, évidemment, voit prêche pour sa paroisse, j'ai envie de dire, à ce moment-là.
Voilà. Bah, quand il en met l'équipe B, B prime, bon, bah, voilà, là, il dit quelque chose, mais il ne devrait pas, parce que si un jour il rencontre une équipe où justement les 4-5 joueurs majeurs sont blessés, il ne va rien dire. Bon, voilà. Alors, ça, c'est déjà une chose. Et la deuxième chose, c'est que ça, il faudrait le faire pour toutes les équipes dans toute la hiérarchie. C'est-à-dire que pour une équipe qui est susceptible de gagner la Coupe de France et qui ne pourra jamais accéder aux places européennes, et ben gagner une Coupe de France, c'est le Graal, comme les équipes qui sont susceptibles de gagner la Coupe d'Europe. Donc, quelque part, il faudra aussi penser à eux. Par exemple, leur match, quand ils rencontrent un tirage de Coupe de France, leur match de championnat, qui soit aussi décalé.
Ah oui, mais alors là, c'est un casse-tête sans nom pour la Ligue. Oui, tu imagines, Gérard, décaler à chaque fois tous les matchs.
Gérard, là, je pense qu'il y a eu quand même une exception, parce qu'il y a eu quelque chose de très rare. Ces trois clubs qualifiés pour les quarts. Donc là, quand il y a eu les huitièmes ou les seizièmes ou quoi, il n'y a pas eu de
changement au niveau
de la Ligue dans notre championnat.
Ouais. Ok, coach. Mais alors, il faut faire pareil pour les équipes qui sont possibilité de passer en quart ou en demi-finale de Coupe de France, alors.
Alors après, c'est vrai, le problème, c'est que à partir de quand tu protèges les équipes, quelle équipe tu protèges, potentiellement. Mais c'est vrai que ça ferait beaucoup de changements en Ligue 1 et vous ne parlez jamais de l'équité. Mais c'est marrant, coach, tu ne parles pas de l'équité du championnat. C'est-à-dire que, par exemple, je dis n'importe quoi, Lorient, ils vont jouer contre le PSG ou Nice va jouer contre Marseille en connaissant les résultats de ce week-end.
Ah ben oui, mais c'est d'ailleurs pour ça que dans les deux dernières journées, tu as tous les matchs qui se jouent à la même heure, parce qu'il y a aussi quand même la possibilité pour les droits télé. On peut pas faire tout. C'est les cinq dernières journées en faisant jouer tous les matchs à la même heure. Ça sera quand même plus le même prix qu'on pourra récupérer pour les droits télé. Mais essayons quand même de réfléchir tranquillement. Donc nous avons trois clubs français pour les quarts, ok. En ce qui concerne après la Coupe de France, on essaie d'améliorer les choses. Regarde un petit peu comme c'est difficile de suivre. Tu avais à une certaine époque la Coupe de la Ligue et la Coupe de France. Tu avais en plus 20 équipes en première division.
Bien sûr, hein.
La Coupe de la Ligue remplacer ces deux clubs qui forment notre première division. On enlève la Coupe de la Ligue. Et on n'a pas besoin, en plus d'enlever la Coupe de la Ligue, de passer à 18.
Ah oui.
On enlève la Coupe de la Ligue. Eh bien, ça va, c'est bon. Il reste la Coupe de France. Et la Coupe de France, on lui enlève aussi la prolongation, ce qui facilite les surprises et ce qui facilite aussi que des clubs très moyens sont arrivés en quart de finale et en demi parce que ben les 2 fois 15 minutes de prolongation, c'est, si c'est supprimé, tu as plus de chances d'aller au tir au but, il y a plus de chances qu'il y ait des surprises. Donc, si par exemple on veut chercher ce qui est pas normal ou ce qui est injuste, ben à ce moment-là, ne nous arrêtons pas en chemin. Essayons de comprendre pourquoi, sans Coupe de la Ligue, on est passé à 18. Essayons de comprendre pourquoi on a enlevé la prolongation à la Coupe de France. C'est pour augmenter les surprises. Attends, excuse-moi. La Coupe de France, il y en a déjà suffisamment de surprises. Eh ben là, pourquoi pas? On a même supprimons aussi la deuxième mi-temps. En Coupe de France, tu joues qu'avec la première mi-temps. Et comme ça. Et après, fais 4 barragistes dans notre Ligue 1 qui a déjà été réduite à 18. Et à ce moment-là, eh ben, moi qui suis moqueur, taquin et tout, eh ben, je vais continuer à me régaler. Je me régale. Mais en même temps, je m'emmerde depuis 25 ans.
Bon, on va remercier Gérard, en tout cas, d'être passé au 32-16. Merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux, bien sûr. Pour ce débat, n'hésitez pas, la hashtag RMC Live sur X, l'appli RMC Direct Studio pour laisser vos messages, pour débattre avec nous. Et puis, sur YouTube, le chat, bien sûr, pour laisser vos messages concernant, donc, volonté de la Ligue de protéger les clubs européens. On revient dans un instant. Tiens, on va parler de Marseille, qui joue son quart de finale retour contre Benfica. Comment ils vont après cette défaite d'hier? On a quelques infos à vous donner dans un instant sur RMC dans la After, à tout de suite.
RMC, l'After Live.
François Pinet.
20h34 sur RMC, on est de retour dans l'After Live avec Coach Courbis ce soir et Metz Lens au programme de votre soirée en direct à partir de 21h sur RMC. On retourne dans un instant au stade Saint-Symphorien. On est également à suivre sur YouTube, vous le savez, sur le compte de l'After, où d'ailleurs je vais citer Sonia qui nous regarde et qui nous suit et qui dit: c'est ridicule, en Première Ligue, en Liga, en Bundesliga, en Serie A, les équipes engagées en Ligue des Champions, en Europa League et en Conference League jouent ce week-end. Encore une fois, c'est révélateur du niveau de la Ligue 1 qui a certainement besoin de points UEFA. Voilà pourquoi certains clubs ne jouent pas ce week-end. C'est un long débat que d'ailleurs vous avez pu entendre dans Rotten sans flamme, et si vous ne l'avez pas entendu, vous pouvez retrouver Rotten sans flamme aussi en podcast, bien sûr. L'OM justement, qui a perdu, vous le savez, hier 2-1 contre Benfica, on va en parler dans un instant avec vous au 32-16, supporters marseillais. Mais d'abord, un petit détour par Monte Carlo avec Eric Salio. Comment ça se passe pour le Français Hugo Humbert?
Ah, malheureusement, ça a mal tourné ce troisième set pour Hugo Humbert, puisqu'il est distancé désormais 4-1 dans la troisième manche par Casper Ruud, qui a eu un peu de réussite mais qui a haussé le niveau de son jeu. Donc Hugo Humbert est dans les cordes. Un set partout, 4-1 Ruud et 0-40 sur le service du Messin.
Fais gaffe, parce que François, il a peur que ce soit pareil pour les Messins.
4-1 ouais, ça peut être
5-1 François, à l'instant, là, il est en train de craquer, ouais. Hugo Humbert, et pourtant il a eu une balle de débreak, une balle pour revenir à 3-2, et franchement il n'a pas eu de réussite, puisque Casper Ruud, un peu de manière désespérée, a remis une balle qui a touché la ligne. Voilà,
ouais, bah, ça sent pas
malheureusement
bon,
ça a basculé du mauvais côté, donc il n'y aura sûrement pas d'exploit ici sur le central de Monte Carlo Country Club.
On te retrouve évidemment pour la fin de cette rencontre, ouais. À noter également, à la mi-temps de cette finale de Eurocoupe, match 2 entre Bourg-en-Bresse et Paris, c'est Bourg-en-Bresse qui mène 46-43. On retrouvera Arnaud Valadon au commentaire pour la deuxième mi-temps de cette finale 100% française. L'OM, je vous le disais, qui a perdu donc 2-1 hier, et j'ai quelques infos à vous donner de notre correspondant Flo Germain, toujours très bien informé à Marseille, suite à cette défaite. Eh bien, l'optimisme règne à Marseille, devant les micros et même en privé. Certains leaders ont regretté, malgré tout, les approximations techniques dans les 20 ou 30 derniers mètres qui auraient pu permettre aux Marseillais de repartir avec un meilleur résultat, mais ils peuvent se convaincre qu'une qualification est encore possible, puisque Jean-Louis Gasset répète à l'envi que le match retour face au Shakhtar Donetsk en barrage d'Europa League avait tourné en faveur des Marseillais, et puis l'aller face à Villarreal en huitième de finale dans un vélodrome en fusion avait également très bien fonctionné. Au rayon des bonnes nouvelles, un tout petit espoir de récupérer pour jeudi prochain Jonathan Clauss et Ismaïl Assar, deux joueurs blessés à la cuisse depuis la trêve internationale, et puis Bemba, qui revenait de blessure hier, a ressenti des douleurs au genou, mais ce n'est pas une rechute et il devrait être présent jeudi prochain. En revanche, il n'y aura pas de Quentin Merlin, victime d'une grosse entorse de la cheville. Il a passé des examens aujourd'hui. La durée d'indisponibilité n'a pas filtré, mais il n'est pas impossible qu'il puisse rejouer cette saison. Alors, est-ce que le match aller te laisse de l'espoir, coach, pour le retour? Avant de t'entendre, je voudrais qu'on interroge Sofiane, qui a fait le 32-16. Salut Sofiane.
Oui, bonjour, vous m'entendez?
On t'entend très bien, Sofiane.
Salut Sofiane.
Ça va, vous allez bien?
Ben oui, bien sûr, ça va. Et toi, après cette défaite de Marseille contre Benfica 2-1, qu'est-ce que tu penses du match retour? Est-ce que ça t'a laissé quand même de l'espoir, ce match d'hier?
Moi, connaissant mon club et connaissant les matchs de football en général, tout est possible. Et dans un vélodrome en folie et avec normalement l'engouement qu'il y aura, tout est possible. Mais je connais aussi mon club et je sais qu'au match retour, avec 70 000 personnes et toute la terre qui pousse l'OM, je sais que les mecs ils peuvent faire 0-0 ou perdre et aller en zone d'interview et dire oui, bah, on va retourner travailler comme d'habitude. Et en fait, le problème de ce club et des joueurs depuis quelques saisons, le problème, c'est juste que il n'y a pas de remise en question. Il y a du laisser aller. Je sais pas, moi je regarde des reportages sur le foot. Dans les reportages, les mecs, ils ont une analyse vidéo, ils revoient les actions du match, ils leur disent ce qui va pas. Est-ce qu'une fois, depuis 4-5 saisons à l'OM, il y a quelqu'un qui a pris un iPad, qui a montré des vidéos à Ritz, à Luis Enrique, à ces mecs-là pour leur dire, écoute, ça fait 30 matchs que tu fais le même débordement, au bout d'un moment, tu vois le mec en bleu à ta gauche, tu vois le mec à l'opposé, tu vois ça vient d'ici qu'il y a la densité que tu vas chercher, je sais pas, tu vas dans n'importe quel club de district, à la fin du match, ton coéquipier te le dit, comment il n'y a pas un analyse vidéo, il n'y a pas quelqu'un de lumière là-bas qui leur dit, oh les gars, 200 000 euros par mois. Réveillez-vous.
T'étais pas content visiblement de la performance de tes joueurs.
Non, c'est pas que la performance d'aujourd'hui, c'est en général.
Ouais.
Ça fait des saisons entières, c'était des années entières. C'est l'Olympique de Marseille.
Alors, tu penses vraiment qu'il n'y a pas ce travail vidéo? Ça serait le seul club où il n'y a pas ce travail.
Je pense quand même qu'il y a un analyste vidéo après.
Non, il y a un analyste vidéo, mais c'est pas. Alors soit il est pas pris au sérieux, soit il parle pas la même langue qu'eux. Parce que moi je vous mets les matchs. Hein.
Tu penses pas que les joueurs ne peuvent pas faire mieux, peut-être aussi? Tu t'es pas posé la question?
Mais tu penses pas
qu'il y a 6 ou 7 joueurs dans les 15 joueurs de l'OM, je vais pas me prendre 25, qui tout simplement, allez, je suis assez correct et sympa, qui sont moyens?
Non, mais moyen, c'est gentil.
C'est un problème d'analyste vidéo là.
Tu peux faire des vidéos. Je vais pas te citer une liste de 4 ou 5 joueurs. Tu peux leur faire 10 heures de vidéo d'affilée. Ça changera pas grand chose.
Hein. Non, mais ce que je veux dire sur la vidéo, c'est plus sur le principe individuel pour leur montrer que l'erreur tu l'as fait à chaque match, frérot. Je veux dire, tu l'as fait à chaque match. Contrôle, passe, tu te retournes. L'investissement. Peut-être qu'ils sont pas payés. Hein, je sais pas. Je sais pas, on sait pas. Peut-être qu'il passe la DNCG comme ça aussi. Peut-être qu'il les paye pas, la masse salariale elle est à zéro. Et c'est normal que les mecs ils jouent pas.
Bon, en tout cas, merci pour ton humour, Sofiane. Mais je te pose la question, coach, par rapport au match que tu as vu hier, parce qu'il y a eu quand même des débats. On sent un optimisme. En tout cas, c'est ce que nous dit Flo Germain suite au match et à cette défaite de Buzyn. Est-ce que tu penses que ce match d'hier peut permettre justement d'entretenir l'espoir par rapport au match retour? Juste avant de t'entendre, il y a un petit teasing. On va aller voir Eric Salio parce que c'est une balle de match pour Casper Ruud face à Hugo Humbert.
Ouais, la première balle de match pour le Norvégien, elle est sauvée par Hugo Humbert avec un revers long ligne qui prend la ligne. Effectivement, Casper Ruud est allé vérifier la trace. Donc première balle de match sauvée merveilleusement. Une sorte de coup de poker. Hein. J'ai l'impression qu'il est passé au casino là, mais en tout cas, il est toujours en vie. 5-1, Ruud, 40A, je vous rappelle s'il y a une deuxième opportunité.
Parfait, Eric. Alors coach, sur cette histoire de l'Olympique de Marseille et sur cette défaite de Buzyn, de l'espoir pour le match retour.
Je dirais que c'est une évidence.
Ouais.
Dans le sens que entre les joueurs importants absents, les points d'interrogation sur pas mal de joueurs qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est leur niveau. Luis Enrique, ouais.
Mombenya, voilà, donc, en attaque.
Derrière ça, Klose absent. Et derrière ça, tu te prends en plus cette blessure de Merlin, je dirais, pas pour couronner le tout, mais presque. Tu es 2-0, mais devant la télé, on est presque tous d'accord de se dire surtout de ne pas prendre le troisième, qui est un petit peu l'espoir du match retour, parce que 2-0, ça reste quand même un match avec de l'espoir. c'est pas 2-0, c'est but d'Aubameyang qui te fait revenir à 2-1. Mais là, tout de suite, j'ai dit, mais allez, qui siffle la fin, cet arbitre, et rendez-vous jeudi prochain. Mais jeudi prochain, qu'est-ce qui se passe? Mais si l'ouverture du score se fait par Benfica, mais ça sera très compliqué. Si l'ouverture du score se fait par Marseille, mais tu as déjà réduit
et à égalité, c'est déjà
ce qui te manque. Ouais. Donc, si on n'y croit pas, à la suite du match qu'on a vu hier, malgré tous les pépins, on rentre de Benfica en ayant perdu que 2-1. Ah ben là, à ce moment-là, j'y comprendrai plus rien, François.
On va remercier Sofiane, en tout cas, d'être passé sur RMC. Tu reviens quand tu veux, Sofiane, pour parler de cette équipe de Marseille que l'on retrouvera donc sur RMC la semaine prochaine face à Benfica au Stade Vélodrome en quart de finale retour d'Europa League. C'est terminé pour Hugo Humbert à Monte Carlo. Ouais. Malheureusement, Eric, salut.
Il n'y aura pas de Français en demi-finale demain à Monte Carlo puisque Hugo Humbert vient de s'incliner donc en 3 manches, 6-3, 4-6, 6-1. Franchement, le 6-1 est très sévère. Mais la bonne nouvelle pour le Messin, c'est que lundi, il décrocha un nouveau best ranking, comme on dit, un nouveau meilleur classement. Il sera 13e mondial. Brique par brique, il se rapproche du top 10.
Et la bonne nouvelle pour lui aussi, le Messin, c'est qu'il va pouvoir suivre Metz-Lens sur RMC, puisqu'il a terminé à temps.
Attends, mais
il déteste le foot.
Tu commences à nous faire douter, il n'aurait pas fait exprès pour voir le match.
Bah, visiblement, il n'aime pas trop le foot.
Bon, je lui ai demandé, mais j'ai pas l'impression que ce soit.
Demande-lui s'il va regarder Metz-Lens quand même.
Ouais, bah en tout cas, tu sais que ses parents tenait une charcuterie de très, très haut niveau à Metz. Ah ouais,
oui. Ah ouais. Non, rue des Grands
Serres, ça te parle?
Bah oui, bien sûr, rue des Grands Serres, bien sûr.
C'était eux.
Ah bien, bah écoute, tu le salueras hein, au nom de ceux qui aiment avec le football plaisir. Et le FC Metz. C'est dans un instant, bien sûr, Metz-Lens à partir de 21h sur RMC. On vous attend, supporters messins et lensois. On retourne à Saint-Symphorien dans un instant. Restez avec nous avec Coach Courbis pour l'After Live en direct sur RMC. À tout de suite.
RMC, l'After Live.
François Pinet.
20h48 sur RMC, dans 12 minutes, Metz-Lens, coup d'envoi de cette 29e journée de Ligue 1 au programme. Coach Courbis est encore là pour quelques minutes avant de laisser sa place à Lionel Charbonnier, avant de retourner à Saint-Symphorien, un point sur la finale de l'Eurocoupe, match 2 entre Bourg-en-Bresse et Paris Basketball. Arnaud Valadon.
C'est reparti depuis 5 minutes dans ce troisième quart-temps et Paris a pris des commandes, sert d'une courte tête. 53-52, rien n'est fait dans cette partie. Si Paris gagne, Paris sera sacré champion puisqu'ils ont remporté le match 1 mardi. Un point d'avance seulement pour Paris Basketball sur le terrain de la Jeu, JL Bourg. Et il reste 4 minutes 54 dans le troisième quart-temps.
Merci Arnaud, de retour à Saint-Symphorien avec nos commentateurs pour ce soir. Aurélien Tirsin, Patrick Muller, messieurs, rappelez-nous les compos pour ceux qui nous rejoignent.
On va commencer par le FC Metz. Kidja dans les buts, Mathieu Hudol le capitaine à gauche de cette défense, Traoré et Sané pour composer la charnière, Maxime Collin à droite, Kandé, Endoram, Damien Jean-Jacques au milieu de terrain et pas de Lamine Camara, Endoram Atta, Jean-Jacques à droite de cette attaque, Vanden Kerkhoff à gauche, Papa Diallo et seul en pointe, Georges Mikotadze.
Et côté Lensois, le capitaine Brice Samba dans les cages, la charnière habituelle, Medina, Danso, Gradit, les pistons Frankowski, Perot trouver le côté droit puisque David Machado, le Colombien, longtemps absent, est de nouveau titulaire. Diouf Elaynaoui au cœur du jeu et puis devant David Costa, David Pereira da Costa à gauche, Florian Sotoka à droite, Wesley Saïd. Voilà, c'est les pattes des entraîneurs, les fameuses pattes bolognaises. Voilà, c'est fait. On peut passer à autre chose ce soir.
Magnifique.
Ah oui, bolognaise, bien sûr.
On répète depuis le début de la journée, je me suis dit, il faut qu'on le fasse une fois ce soir et on peut passer à autre chose.
Merci, bravo. Metz qui relégue à 17e à 3 points de Lorient, le barragiste, à 5 points de Nantes, le premier non relégable, toujours dans la course, mais il y a urgence. Et là, j'aimerais, Patrick, te lire un message sur YouTube, puisqu'on est en direct sur YouTube, de Jérôme qui nous dit: je pense que Bologna est lâché par les joueurs de Metz. Ou Kidja qui poste sur Instagram un schéma tactique pour Bologna. Doram qui veut rentrer sur le terrain, c'était la semaine dernière avec sa chaîne. Cette équipe de Metz ne semble plus concernée par le maintien.
En tout cas, on sent qu'il n'y a plus vraiment de capitaine à bord du bateau, d'une certaine manière. C'est vrai qu'il y a eu ce message d'Oukidja, il y a eu cette sanction aussi pour Oukidja, disciplinaire, interne, suite à cette talonnade. Vous avez peut-être ce geste en tête, c'était à l'occasion du match contre Monaco, et des joueurs qui réclament une espèce d'autogestion, voilà, qui disent que finalement ils vont parler en entre eux, ils prennent connaissance, oui, des consignes du coach, mais ensuite ils vont faire les choses un petit peu à leur sauce, sauce bolognaise, voilà, c'est fait, et on pourra passer à autre chose.
Ah, tu veux la refaire aussi, quoi.
Voilà, voilà, c'est fait, mais plus sérieusement, c'est vrai qu'on a l'impression que tout cela manque de direction, un petit peu au plus mauvais moment, hein, parce que, alors certes, la saison est très très compliquée pour les Messins, mais il y a encore peut-être un petit espoir. Bah, ça passe par une victoire ce soir contre Lens, parce qu'on a, on l'a évoqué tout à l'heure, le calendrier est assez dantesque, avec déplacement à Strasbourg sur l'avant-dernière journée, la réception du PSG, le dernier match peut-être de Kylian Mbappé en Ligue 1 ce soir-là, le 18 mai. Il faudra recevoir Lille, recevoir Rennes, aller au Havre la semaine prochaine. C'est maintenant ou jamais, en gros.
Merci Patrick, on se retrouve pour le coup d'envoi de cette rencontre de ce Metz-Lens avec Aurélien, bien évidemment, à tes côtés à Saint-Symphorien, en direct dès 21h dans 9 minutes maintenant, mais il est temps de parier sur ce match.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Et c'est avec Christophe Payet de la rédaction des Paris RMC. Salut Christophe.
Salut François, bonsoir à tous.
Les cotes de ce Metz-Lens.
Très favorable à Lens, vous devez vous en douter. Oui. 1,56 seulement, c'était encore 1,70 cet après-midi. La cote n'arrête pas de baisser. Le nul à 4,10, la victoire de Metz s'est cotée à 6. Metz qui n'a battu Lens qu'une seule fois à Saint-Symphorien au 21e siècle. Metz qui a perdu 6 de ses 7 derniers matchs à domicile et n'a battu que Clermont qui est dernier. Vient d'en prendre 5 contre Monaco et 4 à Brest. Je suis très inquiet, surtout que Lens voyage bien en 2024. 10 points pris à l'extérieur pour 7 à domicile, pour toutes ces raisons. Pour moi, c'est victoire de Lens, peut-être même par au moins 2 buts d'écart. C'est coté à 2,80. Après, je ne me prononce pas sur les deux marques ou pas, parce que Metz a vraiment de grosses difficultés à marquer. Mais Mikotadze est en forme. 5 buts lors des 6 derniers matchs. Il est coté à 3,75. Ça peut éventuellement se tenter, notamment pour les supporters messins comme toi, mon cher François. Mais à la fin.
Un but de Mikotadze, c'est pas mal.
Ouais, 3,75.
7 buts en 14 matchs.
Ils en mettent 3 en deuxième mi-temps. Bref,
ils en ont mis 3. Avec deux buts de Mikotadze.
Mais alors, c'est vrai qu'à Saint-Symphorien, c'est
ah oui, bien sûr.
Donc voilà, Lens facilement.
Coach, l'inspiration.
Lens qui perd pas avec les deux équipes qui marquent, ouais. Mikotadze, ah, ou Saïd, buteur.
Ah oui, Saïd aussi.
Alors, 2,05 et avec les deux buteurs, on grimpe évidemment presque 4 pour la proposition de Roland, avec deux choix possibles.
Si on veut se couvrir, que le but de Mikotadze,
oui,
effectivement, ça peut être, c'est un bon prix quoi, hein, pour Mikotadze qui, effectivement,
après,
le seul Messin
que
Metz qui montre des choses.
Ça peut jouer, mais je préfère faire ni l'un ni l'autre. Voilà.
Ok, on a bien compris. Merci beaucoup, Christophe. D'autres paris à retrouver sur rmcsport.fr.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci beaucoup, coach. Bonne soirée. On se retrouve demain. Un changement dans l'After Live avec Lionel Charbonnier qui prend ta place pour Metz-Lens en direct, en intégralité. Ce soir, 29e journée de Ligue 1. Vous ne raterez rien en restant sur RMC. On arrive dans un instant. Restez avec nous. À tout de suite.
RMC, l'After Live.